Une colonisation pour les colons, les budgets coloniaux. Venons-en maintenant à la question des origines et de la persistance des inégalités coloniales. Parmi les justifications des inégalités esclavagistes, nous avons vu dans le chapitre précédent que figurait notamment la compétition économique et commerciale entre puissances étatiques rivales, ainsi que la dénonciation des hypocrisies de l'inégalité industrielle. Pour ce qui est de la domination coloniale post-esclavagiste, ces arguments jouent également leur rôle, mais la justification principale a surtout consisté pour les colons à insister sur leur mission civilisatrice. Du point de vue des colons, cette mission s'appuyait d'une part sur le maintien de l'ordre et la promotion d'un modèle de développement propriétariste à vocation potentiellement universelle, et d'autre part sur une domination qui se voulait aussi intellectuelle et fondée sur la diffusion de la science et des connaissances. Cette double mission civilisatrice, militaire et intellectuelle, fondée à la fois sur le maintien de l'ordre et l'encadrement spirituel, n'est pas sans rappeler le schéma trifonctionnel et ses élites guerrières et cléricales. La logique ternaire est simplement étendue à l'échelon international et interétatique. Il est donc intéressant d'étudier comment fonctionnait concrètement l'organisation des colonies, en particulier du point de vue de ses budgets, de ses impôts, de son système légal et social, et plus généralement du modèle de développement mis en place par le colonisateur. Les recherches disponibles sur ces questions sont malheureusement limitées, mais permettent néanmoins d'établir un certain nombre de résultats. De façon générale, de multiples éléments démontrent que les colonies étaient organisées avant toute chose pour le bénéfice des colons et de la métropole, et que les investissements réalisés en matière sociale et éducative, au bénéfice de la population autochtone, étaient extrêmement faibles, voire insignifiants. Cette faiblesse des investissements a également longtemps concerné les territoires d'outre-mer qui sont restés rattachés à la France, en particulier aux Antilles et dans l'océan Indien, et peut contribuer à expliquer la persistance de très fortes inégalités au sein de ces territoires, ainsi qu'avec la métropole. Dans les années 1920 et 1930, des rapports parlementaires français notaient par exemple les taux de scolarisation extrêmement faibles observés à la Martinique et en Guadeloupe, et plus généralement l'état lamentable du service général de l'enseignement. La situation s'est progressivement améliorée dans ces territoires après la départementalisation de 1946 et à un degré moindre dans l'ensemble des colonies françaises dans les années 1950, quand la métropole espérait encore conserver des morceaux d'empire. Mais le retard accumulé était considérable, et dans le cas des départements d'outre-mer, il fallut attendre un demi-siècle pour que les inégalités s'approchent des niveaux métropolitains. Des travaux récents, menés notamment par Denis Cogniot, Yannick Dupraz, Élise Huillery et Sandrine Méplé-Somps, ont permis de mieux comprendre la structure des budgets coloniaux appliqués lors de la colonisation française, aussi bien en Afrique du Nord qu'en Indochine et en Afrique occidentale et équatoriale, et leur évolution depuis la fin du XIXe siècle et au cours de la première moitié du XXe siècle. Le principe général lors de la colonisation française, tout du moins lors du Second Empire colonial, c'est-à-dire entre 1850 et 1960 environ, était que les colonies devaient être autosuffisantes sur le plan budgétaire. Autrement dit, les impôts acquittés sur les territoires coloniaux devaient permettre de financer les dépenses mises en place sur ces mêmes territoires, ni plus ni moins. Aucun transfert ne devait avoir lieu des colonies vers la France, ni de la France vers les colonies. De fait, d'un point de vue formel, les comptes budgétaires coloniaux sont équilibrés pendant toute la durée de la colonisation. Les impôts équilibrent les dépenses, en particulier à la Belle Époque et au cours de l'entre-deux-guerres, et plus généralement tout au long de la période 1850-1945. La seule exception concerne la période précédant immédiatement les indépendances, qui correspond pour une large part à la Quatrième République, 1946-1958, et au cours de laquelle on constate un léger transfert fiscal du budget français vers les colonies. Il faut bien comprendre toutefois ce que signifie cet équilibre des budgets coloniaux des années 1850-1945. En pratique, il s'agissait d'un équilibre au sein d'un budget pesant principalement sur les colonisés et bénéficiant presque exclusivement aux colons. Du côté des prélèvements, on constate en effet qu'il s'agissait principalement d'impôts régressifs, c'est-à-dire de taxes imposant de fait les revenus faibles à un taux plus élevé que les revenus importants, taxes sur la consommation, droits indirects et surtout capitation, qui désignait un impôt d'un même montant pour chaque habitant, riche ou pauvre, sans aucune tentative de prise en compte des facultés contributives du contribuable. Ce qui constitue la forme la moins sophistiquée possible d'imposition, que l'ancien régime français avait en grande partie déjà dépassé au XVIIIe siècle, avant même la Révolution. Il faut en outre préciser que ces comptes budgétaires ne prennent pas en compte les corvées, qui étaient des journées de travail forcées, dues par les populations colonisées à l'administration coloniale, et sur lesquelles nous reviendrons plus loin. Par ailleurs, il faut souligner que le niveau d'extraction fiscale était relativement élevé, compte tenu de la pauvreté des sociétés en question. En utilisant les sources disponibles sur les niveaux de production, y compris l'autoproduction alimentaire, on peut, par exemple, estimer que les impôts prélevés représentaient en 1925 près de 10% du produit intérieur brut en Afrique du Nord et à Madagascar, et plus de 12% en Indochine, c'est-à-dire presque autant qu'en métropole au même moment, à peine 16% du produit intérieur brut, et davantage qu'en France au XIXe siècle et jusqu'en 1914, moins de 10%, et dans nombre de pays pauvres en ce début de XXIe siècle. Enfin, et peut-être surtout, du côté des dépenses, on constate que les budgets coloniaux étaient conçus presque exclusivement pour le bénéfice de la population française et européenne, et notamment pour payer les salaires très confortables du gouverneur, de la haute administration de la colonie et des forces de police. Pour résumer, les populations colonisées acquittaient de lourds impôts afin de financer le train de vie de ceux qui étaient venus les dominer politiquement et militairement. Il existait également quelques investissements dans les infrastructures, ainsi que de maigres dépenses d'éducation et de santé, mais elles étaient principalement destinées aux colons. De façon générale, le nombre de fonctionnaires, et en particulier d'enseignants et de médecins, était extrêmement faible dans les colonies, mais cela a été compensé par le fait qu'ils étaient exceptionnellement bien payés, relativement au niveau de vie des sociétés considérées. En rassemblant l'ensemble des budgets coloniaux de 1925, on constate par exemple que les colonies françaises comptaient en moyenne à peine 2 fonctionnaires pour 1000 habitants, mais que chacun de ces fonctionnaires était rémunéré environ 10 fois le niveau de revenu national moyen par adulte en vigueur dans les colonies. À l'inverse, en métropole à la même date, on dénombrait environ 10 fonctionnaires pour 1000 habitants, et chacun gagnait en moyenne de l'ordre de 2 fois le revenu national par habitant. Dans certains cas, les budgets coloniaux permettent également de faire apparaître séparément les salaires versés aux fonctionnaires venus de métropole et à ceux recrutés parmi les autochtones. En Indochine et à Madagascar, on constate par exemple que les Européens représentaient environ 10% des effectifs de fonctionnaires, mais recevaient plus de 60% de la masse salariale. Il arrive également que l'on puisse distinguer les dépenses consacrées aux différentes populations, en particulier pour ce qui concerne l'éducation, car les systèmes d'enseignement ouverts aux enfants des colons et des autochtones étaient le plus souvent strictement séparés. Au Maroc, les écoles et les lycées réservés aux Européens recevaient ainsi 79% de la dépense éducative totale en 1925, bien qu'il n'ait formé que 4% de la population. À la même époque, le taux de scolarisation primaire parmi les enfants autochtones était inférieur à 5% en Afrique du Nord et en Indochine, et inférieur à 2% en Afrique occidentale française. Il est particulièrement frappant de constater que cette forte inégalité des dépenses ne semble pas s'améliorer à la fin de la colonisation, en dépit du fait que la métropole commence à investir davantage de ressources dans les colonies. En Algérie, les budgets font ainsi apparaître que les établissements scolaires réservés aux colons recevaient 78% du total des dépenses d'éducation en 1925 et que cette proportion s'établit à 82% en 1955, alors que les combats pour l'indépendance ont déjà commencé. Le système colonial était tellement inégalitaire dans son fonctionnement qu'il semble dans une large mesure irréformable. Il faut certes prendre en compte le fait que tous les systèmes éducatifs de l'époque étaient extrêmement élitistes, y compris bien sûr en métropole. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur les dépenses éducatives qui demeurent encore aujourd'hui très inégalement réparties au sein de la population en fonction des origines sociales des enfants comme de leur réussite scolaire initiale, deux critères qui se recoupent partiellement mais pas complètement. Le manque de transparence et d'ambition réformatrice à ce sujet fait d'ailleurs partie des principaux défis inégalitaires qui se posent pour l'avenir. Et aucun pays n'est vraiment en situation de donner des leçons sur ce sujet. Il n'en reste pas moins que l'ampleur de l'inégalité caractérisant les systèmes éducatifs coloniaux apparaît exceptionnellement élevée et sans commune mesure avec les autres situations. Si l'on considère par exemple le cas de l'Algérie au début des années 1950, on peut estimer que les 10% des élèves, lycéens et étudiants, bénéficiant de la dépense éducative la plus élevée au sein de leur classe d'âge, c'est-à-dire en pratique les enfants des colons, recevaient plus de 80% de la dépense éducative totale, voire graphique 7.8. Si l'on fait le même calcul pour la France de 1910, qui était extrêmement stratifié sur le plan éducatif, dans la mesure où les classes populaires allaient rarement au-delà du certificat d'études primaires, on constate que les 10% d'une classe d'âge bénéficiant de l'investissement éducatif le plus important recevaient 38% de la dépense totale, contre seulement 26% pour les 50% d'une classe d'âge les moins formées. Il s'agit d'une inégalité considérable, dans la mesure où le second groupe est par construction 5 fois plus nombreux que le premier. En d'autres termes, les 10% des enfants les plus favorisés bénéficiaient d'un investissement éducatif individuel près de 8 fois plus élevé que les 50% les moins favorisés. L'inégalité de la dépense éducative a sensiblement baissé en France entre 1910 et 2018, même si le système en place continue encore de nos jours d'investir près de 3 fois plus d'argent public par enfant pour les 10% les plus favorisés que pour les 50% les moins favorisés, ce qui est relativement étonnant pour un système qui est supposé réduire la reproduction sociale. Nous y reviendrons quand nous étudierons les conditions d'une éducation juste. À ce stade, notons simplement que les inégalités scolaires au sein des sociétés coloniales telles que l'Algérie française étaient d'une ampleur incomparablement plus élevée. Le rapport de dépenses entre les enfants des colonisés et ceux des colons allait de 1 à 40. Au cours de la dernière phase de la colonisation, entre 1945 et 1960, l'État français tenta d'investir pour la première fois des montants significatifs dans les colonies. L'État colonialiste, finissant, voulut se faire développementaliste, dans l'espoir de convaincre les populations concernées de rester dans l'Empire, lui-même redéfini en une Union française qui se voulait sociale et démocratique. Outre que la répartition des dépenses reproduisit les structures inégalitaires précédentes, il ne faut cependant pas surestimer l'ampleur de cette soudaine générosité métropolitaine. Au cours des années 1950, les transferts de la France aux budgets coloniaux ne dépassèrent jamais 0,5% du revenu national métropolitain par an. Ces sommes, qui suscitèrent très vite de multiples oppositions en métropole, ne sont pas totalement négligeables en soi. Elles sont approximativement du même ordre, en pourcentage du revenu national, que la contribution nette des pays les plus riches de l'Union européenne, dont la France et l'Allemagne, au budget européen dans les années 2010-2020. Et nous reviendrons sur ce que signifient concrètement de tels montants quand nous examinerons les difficultés et les perspectives de l'intégration politique européenne. En l'occurrence, s'agissant de l'Empire colonial français, il faut toutefois insister sur le fait qu'il est difficile de parler de transfert aux colonies s'agissant de sommes destinées à financer pour l'essentiel des fonctionnaires français expatriés, largement rémunérés et travaillant pour le bénéfice des colons. En tout état de cause, il n'est pas inutile de comparer ces 0,5% de revenu national de transfert fiscal métropolitain aux budgets coloniaux civils dans les années 1950 avec les dépenses militaires autrement plus importantes. Plus de 2% du revenu national métropolitain mis en œuvre pour maintenir l'ordre dans les colonies à la fin des années 1950. On notera également qu'en dehors de cette phase finale, Les budgets militaires pris en charge par Paris au titre du maintien de l'ordre et de l'expansion de l'Empire colonial n'ont jamais dépassé 0,5% du revenu national métropolitain par an entre 1830 et 1910, ce qui, d'une certaine façon, n'est pas très cher payé s'agissant d'un empire dont la population était à son zénith près de 2,5 fois plus élevée que celle de la métropole, 95 millions contre 40 millions d'habitants. On voit là à quel point les écarts de niveau de développement et de capacité étatique et militaire ont pu créer une tentation coloniale de très grande ampleur à peu de frais.